octobre 1897, c'est alors que paraît au Mercure de France un ouvrage intitulé « Le dernier voyage de Rimbaud ». Il est signé par la sœur du poète Isabelle. Arthur est mort 6 ans plus tôt à Marseille après avoir été amputé d'une jambe. Isabelle Rimbaud écrit « Alors il se résignait presque à son amputation, faisant des projets en vue de pouvoir, malgré son membre absent, monter à cheval là-bas et continuer pendant un certain temps encore sa vie active. Mais la vie, justement, va en décider autrement. Dans la deuxième partie de sa courte existence, l'auteur des Illuminations a arpenté en tous sens et à cheval l'Abyssinie, cette région de la Corne de l'Afrique, située dans le nord de l'actuelle Éthiopie, à l'est du Soudan et au sud de l'Érythrée. Un exil dramatique dont il sortira abîmé pour mourir loin de la poésie. On va partir aujourd'hui sur les traces d'un Rimbaud baroudeur.
La marche, le désert, le fardeau, l'égout, le malheur, l'ennui, la colère, l'enfer, la science et les délices de mes peurs et des sens dispersés.
Évidemment pas la première image qui nous vient lorsqu'on évoque l'auteur des Illuminations. On pense plutôt à un jeune homme qui marche, ce qui était le cas dans son Ardenne natale du côté de Charleville où il naît le 20 octobre 1854. Donc avant d'être cavalier, c'était vraiment quelqu'un qui arpentait déjà les routes, Rimbaud.
Oui, c'est ce qu'il qualifie effectivement. Rimbaud, c'est un marcheur et mon livre ne tente pas de contredire cette vérité première. Il était un marcheur depuis ses premières fugues dans les Ardennes jusqu'à la fin de sa vie. Il va marcher quelquefois, il va marcher même très longtemps, pendant 40 kilomètres. Donc c'est un très très grand marcheur et c'est ce qui le définit véritablement.
Alors c'est dans la deuxième partie donc de sa courte vie, hein. Rimbaud meurt en 1891, il est dans sa 37e année, il devient donc cavalier alors qu'il arpente en tous sens les terres immenses de l'Afrique orientale, mais il semble que c'est à Chypre qu'il va s'initier à la pratique du cheval. Nous sommes vers 1880. Que fait Arthur à Chypre, qui est alors un protectorat britannique?
Arthur, il est à Chypre, effectivement, pour en tant qu'employé, il a été embauché par le gouverneur anglais qui voulait construire une maison sur les hauteurs de Chypre, et il trouve cet emploi, et donc il s'y consacre véritablement pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis, c'est une lettre qu'il envoie à sa famille, où pour la première fois, dans son témoignage, il annonce qu'il monte à cheval. J'ai pas trouvé de source précédente. Mais c'est véritablement là qu'il dit, voilà, je descends du mont Troodos pour aller faire un certain nombre de courses, je monte à cheval parce que les routes sont assez difficiles, etc. Donc c'est véritablement là qu'il commence à mon sens, devenir cavalier.
Alors il fait part, vous l'avez dit, Alexandre Blénaud, de sa situation à sa famille. Il leur écrit une lettre, notamment datée du 23 mai 1880. Rappelez-nous en quelques mots les raisons de l'exil d'Arthur.
Ah, elles sont mystérieuses, ces raisons-là, parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire concernant le départ d'Arthur, ou on devrait dire d'ailleurs les départs d'Arthur. C'est un homme de la fuite. La première partie de sa vie est effectivement consacrée, en tout cas à partir du moment où on le connaît, où on le reconnaît, sa première partie de sa vie est consacrée à la poésie, hein, comme on le sait, mais il y a un fait mystérieux ou très étonnant de sa part, c'est qu'il va tourner le dos à la poésie, à l'écriture, à partir de 1874-1875, et à partir de là, il commence à arpenter les routes d'Europe, un petit peu partout, et donc voilà, on n'a pas d'explication. On peut donner des hypothèses, mais je n'ai pas d'explication claire à vous donner par rapport à son départ, à son exil.
Alors, il quitte son emploi à Chypre, il démissionne, il part vers Aden, la capitale du Yémen, et puis vers l'Afrique. Alors, quelles sont les raisons là de son départ de Chypre?
Alors, les raisons de son départ, elles sont là encore mystérieuses, mais il y a peut-être un indice qui a été donné dans un témoignage postérieur, où on raconterait que, alors qu'il avait trouvé un autre emploi que celui de la construction de cette maison-là, en fait, il se trouve qu'un témoin un peu lointain aurait prétendu que Rimbaud aurait tué un ouvrier. Et donc, on aurait eu un départ précipité de l'île de Chypre, et après, il aurait arpenté les ports de la mer Rouge pour retrouver un emploi. Donc, ça aurait été une fuite, une fuite un petit peu motivée. Ouais. Mais il n'y a que ce témoignage, il faut vraiment être
très prudent.
Très prudent par rapport à ce témoignage-là.
Alors, on va le suivre hein, sur les chemins de l'Afrique. On va d'abord s'attarder sur les Illuminations. Donc, recueil composé entre 1872 et 1875, le 17e poème s'intitule Ornière. Et là, Arthur Rimbaud parle d'un cheval bleu, ce qui n'est pas si farfelu que cela. Hein.
Non, alors farfelu, non, parce que les humiliations, on gagnerait à les lire, à les relire, à les recomprendre ou à les comprendre de nouveau plutôt. Oui, donc les illuminations sont certains textes de Rimbaud dans lesquels il va parler un petit peu des chevaux, particulièrement Ornières, où il évoque une espèce ou une série de scènes plutôt qui évoque donc une sorte de défilé de féerie entre des chevaux de cirque, et puis ce défilé se transforme en espèce de défilé funèbre. Le texte se termine par « au grand galop des juments bleus et noirs ». C'est quelque chose de très mystérieux. Pourquoi a-t-il utilisé cette couleur bleu alors que les juments, jusqu'à preuve du contraire, ou les chevaux n'ont pas cette robe-là. Ouais. Évidemment, c'est le jeu des couleurs d'Arthur qui aime beaucoup utiliser ces couleurs-là. Moi, j'ai une hypothèse à apporter, c'est que ce bleu serait le symbole d'une forme d'incertitude, comme si ces chevaux seraient plongés dans une sorte d'océan. C'est un petit peu l'idée que je propose dans mon livre par rapport à ça, mais c'est vraiment plutôt pour signifier le fait que Rimbaud a voulu montrer une forme d'incertitude dans ce poème.
Le 13 décembre 1880, il écrit à sa famille pour dire qu'il s'est établi à Harar, on est à l'est de l'Éthiopie, à Harar que l'on qualifie de quatrième ville sainte de l'islam. Je suis arrivé dans ce pays après 20 jours de cheval à travers le désert de Somalie. Arthur, c'est ce qu'il écrit, hein, il est établi à Harar en qualité d'employé de la maison Vianney, Bardet et compagnie. Vous écrivez, Alexandre Blénaud, que cette expédition, c'est une expérience physique et intérieure à la fois brutale et salutaire. Pourquoi ?
Parce que c'est un trajet extrêmement difficile, extrêmement pénible. Il part de la côte de la mer Rouge, hein, depuis Zeila, et puis il va parcourir des centaines de kilomètres pour atteindre Harar, à la tête, ou en tout cas pour accompagner donc une caravane, hein, avec des dromadaires. C'est la traversée d'un certain nombre de régions, de territoires, qui sont à la fois dangereux, à la fois pénibles sur le plan météorologique, et qui exigent vraiment une santé de fer. Et on raconte que quand les gens arrivent à Harar, donc après 20 jours de marche ou 20 jours de cheval, les gens sont épuisés, ils ont besoin de se remettre pendant quelques jours, ils tuent aussi des dromadaires ou des chevaux qui n'ont pas supporté le trajet. Et donc il arrive à Harar effectivement très épuisé, il a besoin de se remettre de ça. Mais c'est donc une expérience pour lui, la première expérience de l'Afrique pour lui, hein, puisqu'il était à Aden auparavant, donc en Arabie, et il arrive donc en Afrique par ce biais-là. Et c'est une forme d'expérience pour lui très, très difficile.
Ouais. Arthur Rimbaud qui ne semble jamais au repos, hein, le 15 janvier 1881, il écrira à sa famille « Je vais prochainement faire une grande tournée au désert pour des achats de chameaux. Naturellement, nous avons des chevaux, des armes et tout le reste. » Nous sommes avec Alexandre Blénaud.
Des sous ou quoi ? Il y a une cadence trop rapide pour les chameaux, ils vont crever. Je vous demande d'avancer moins vite si nous voulons éviter 2 jours de repos pour les chameaux. Rejoignez Lustreau à l'arrière.
Vous faisiez du commerce en France ? Vous paraissez assez déterminé à vouloir ramasser un joli magot dans le coin. Seulement, il faut faire vite, Rimbaud. On vieillit à toute allure ici.
La première mêle devant. Alors comment Arthur Rimbaud rend-il compte de ses expéditions, Alexandre Blénaud ? Est-ce qu'il décrit une réalité objective ? Ses explorations ont aussi pour rôle d'établir une cartographie des lieux qu'il visite.
Alors, il y a 2 ordres de réponse à ce que vous racontez. D'abord, on va avoir une source qui sera une source personnelle, c'est-à-dire la correspondance avec sa famille, où il raconte quelques aspects, mais il ne va jamais se livrer véritablement. Donc, c'est vrai que ça reste toujours une correspondance quelque peu décevante pour ceux qui voudraient un peu plus en connaître concernant Rimbaud en Afrique. Maintenant, il a aussi eu, un intérêt ethnographique assez développé pour cette région de l'Abyssinie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il va y avoir différentes choses à raconter, notamment le fait qu'il a voulu se procurer un appareil photographique et il a pris des photos d'un certain nombre de personnes ou bien de paysages de Harar. Donc il a aussi cette démarche de vouloir montrer. Et il y a cette démarche qui est tout à fait intéressante. Deuxième chose, il a aussi produit des écrits, notamment la notice sur l'Ogadine, qui est une région de l'Abyssinie aussi. Et en fait, c'était un petit peu une notice détournée, puisque c'est à partir de témoignages d'un des collègues de Rimbaud, qui avait été en faire une expédition en Ogaden, qui avait rapporté un certain nombre d'éléments. Et en fait, Rimbaud semble avoir remis en forme, textuellement, donc, ces informations sur l'Ogaden. Donc, il s'agit véritablement d'expliquer comment vivent les peuplades dans cette Ogaden, quelles sont leurs traditions, est-ce que ce sont des agriculteurs, des nomades, etc. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et il y a donc cette démarche à la fois d'ethnographe, mais aussi de géographe. Et on peut supposer que c'est une des choses que Rimbaud aurait aimé faire, j'imagine, développer son intérêt pour la géographie et pour l'ethnographie.
Alors, dans votre ouvrage, Alexandre Blaineau, vous faites des allers-retours dans les années peu nombreuses d'Arthur. Ainsi, on se retrouve à l'hiver 1871-1872. Il a 17-18 ans. Il partage une chambre à Paris dans la rue Campagne Première avec un autre gamin qui s'appelle lui Jean-Louis Forain. C'est une chambre qui est louée par Paul Verlaine, donc qui sera l'amant d'Arthur. D'abord, qui est Jean-Louis Forain ?
Forain était un artiste qui a galéré, connu des années de galère avec Rimbaud et d'autres pendant ces années-là. Et ensuite, il va être très réputé en tant qu'artiste, en tant que dessinateur et peintre.
Alors, ils boivent des coups, Arthur et Jean-Louis Forain. Oui. Ils rencontrent des gens de la rue Camp. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rue et le quartier dont elle fait partie?
La rue Campagne Première est une rue que j'évoque parce que, évidemment, je prends l'angle de Rimbaud sous l'angle donc du monde équestre. Et il se trouve que dans la rue Campagne Première, il y avait un dépôt, un dépôt des petites voitures, des voitures donc à cheval. Et en fait, c'est là qu'il y avait un monde assez important de cochers que Rimbaud a dû croiser et a croisé certainement. Et il est très probable que Rimbaud a bu un certain nombre de verres avec ses cochers, qui est un monde quelque peu particulier, puisque ils aiment bien la boisson. On a différents types de cochers, mais on a des cochers extrêmement alcooliques qui vont aussi aimer se battre. Et donc, c'était semble-t-il pas pour déplaire à Rimbaud.
Vous écrivez que les cochers de l'époque sont pour certains d'entre eux des gens déclassés, des prêtres interdits, des étudiants, des vieux notaires qui peinent avec 4 francs de salaire par jour et qui se réunissent au café et qui boivent et reboivent encore. Il leur ressemble, Arthur, il a, rappelons-le, 18 ans à peine à l'époque.
Oui, il y a un témoignage absolument saisissant de son ami d'enfance qui s'appelle Ernest Delahaye et qui le rencontre à peu près à ce moment-là. Et dans un des textes de Delahaye, c'est ça qui m'a frappé, c'est que il le retrouve pas forcément en bon état, puisqu'il semble avoir bu ou bien avoir pris de la drogue. Et puis, il le dit clairement, Ernest Delahaye, il dit donc Delahaye qu'il ressemble à un cocher de fiacre. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est comme s'il ressemblait véritablement à des gens qu'il côtoyait alors à l'époque.
Ah, il va beaucoup apprendre aussi à leur contact dans cette vie-là.
Oui, c'est une sorte d'école de la vie, finalement. Il va apprendre, certainement la castagne ou bien le fait de boire aussi. Mais c'est une manière aussi de rentrer avec en contact avec une catégorie de la population assez particulière.
Ce sont des aspects de la vie de Rimbaud que sa biographe officielle, Isabelle, sa sœur, a voulu gommer, vous le dites aussi, lorsqu'elle raconte les périples de son frère donc en Orient, en Afrique. Elle ne parle pas beaucoup des dangers qu'il rencontre, des gens qu'il a parfois malmenés.
On devrait dire que c'est donc une version un peu expurgée. Mmh. Isabelle Rimbaud, avec l'aide d'ailleurs de son mari, donc Paterne Berrichon, ont été les gardiens de la mémoire de Rimbaud. Et donc, à ce titre-là, oui, ils ont expurgé un certain nombre d'aspects concernant la vie entière d'Arthur Rimbaud et la vie qu'il a connue donc en Afrique.
Retournons maintenant dans les contrées lointaines. Depuis qu'il est à Harar, Arthur attend et se désespère. La récolte du café aura lieu dans les 6 mois, écrit-il. Je vais acheter un cheval et m'en aller. Nous sommes avec Alexandre Blaineau.
Je suis arrivé dans ce pays après 20 jours de cheval à travers le désert Somali. Harar est une ville colonisée par les Égyptiens et dépendant de leur gouvernement. Le pays est élevé, mais non infertile. Le climat est frais et non malsain. Je compte que tu as reçu les 100 francs que je t'ai fait envoyer par la maison de Lyon. Je suis heureux d'entendre que tu penses à moi et que tes affaires vont assez bien. J'espère que cela marchera chez toi le mieux possible. De mon côté, je tâcherai de rendre mon travail intéressant et lucratif. À toi de tout cœur.
Un jour dans l'histoire.
Corbeau, Alexandre Blénaud, je l'ai dit, donc négociant en café, vendeur d'armes aussi.
Oui, vendeur d'armes. Alors, c'est une aventure qui est pour lui douloureuse et très longue, hein, puisque il va effectivement entreprendre avec un associé de vouloir vendre des armes à Ménélique, hein, qui était le roi du Shoah. C'est une entreprise qui va être très, très difficile à mettre en place, à mettre en œuvre. Et le souci, c'est qu'à la fin de cette histoire, il parvient effectivement à vendre ses armes à Ménélique, mais à un très vil prix, puisque Ménélique l'a un peu arnaqué finalement, hein, et lui a acheté ses armes à un prix très très bas. Donc il s'en trouve vraiment déçu, évidemment, et c'est vrai que c'est une expérience pour lui qui est, je le répète, difficile, douloureuse et décevante.
Vous écrivez que deux rythmes possibles s'offrent aux négociants lorsque s'ébranle la caravane. Alors quels sont ces rythmes ?
Oui, je disais tout à l'heure que Rimbaud se caractérise par le fait qu'il était marcheur, donc on peut avoir deux rythmes, hein, et on a ces témoignages, là encore, de personnes qui l'ont connu, deux ordres de témoignages, le témoignage d'un marcheur, du fait que Rimbaud ait beaucoup marché, donc il va marcher très lentement au rythme de la caravane. Et puis il va y avoir le deuxième type de déplacement qui est le déplacement à cheval, qui est un déplacement là encore qui peut-être offre la possibilité d'une rêverie, en tout cas d'une réflexion en épousant l'allure du cheval par exemple.
Ouais. Alors on l'a dit, Arthur Rimbaud se déplace, a voyagé ailleurs aussi qu'en Afrique ou en Orient. Il existe beaucoup de mystères qui concernent certains aspects de sa vie. Il y a notamment ce séjour à Stockholm en juin et juillet 1877. Là ça reste obscur. Pourquoi est-il parti en Suède et qu'est-ce qu'il y a fait ?
Ça serait toujours la même réponse. Pourquoi il arpente les différents pays d'Europe comme il le fait là ? Il ne s'arrête pas de voyager, hein, un petit peu partout, à Vienne en Italie et donc, comme vous le dites, à Stockholm. Il y a un certain nombre d'opportunités, certainement. On a donc cet épisode de sa vie qui est quelque peu mystérieux. Là encore, c'est un peu battu en brèche par Isabelle qui refuse l'idée qu'il ait été, puisqu'on va le dire, employé dans un cirque. Uh-huh. Et d'autres, comme Delahaye, qui disent « Mais si, effectivement, il a été employé dans un cirque. » Donc c'est le cirque Loissé, qui est un cirque français et qui a donc été installé pendant quelques semaines ou quelques mois à Stockholm. C'est un cirque équestre. Il est employé, alors on ne sait pas à quel poste il était employé, peut-être guichetier, peut-être receveur, je ne sais pas. En tout cas, c'est très très mystérieux. Et donc il va peut-être avoir l'occasion d'observer ce monde qu'il ne connaît pas, le monde du cirque, dans lequel on va avoir un certain nombre de figures qui vont être présentées au public, des sauts, des exercices de voltige qui étaient vraiment très très réputés à l'époque.
Il aurait quitté la Suède au moment où le cirque s'est arrêté en fait. Hein.
Oui, il y a le cirque qui va connaître une faillite. À peu près, c'est ce qui m'a étonné quand j'ai pu lire un certain nombre de textes là-dessus, c'est que le cirque tombe en faillite au moment même où Arthur quitte Stockholm. Donc on a peut-être là un début de réponse pour expliquer le fait qu'il soit parti de Stockholm.
Alors vous le disiez, Alexandre Blénaud, deux rythmes donc dans l'avancée, dans le périple du poète, lors de ses périples en Ardennes et en Belgique aussi. La scansion de ses pas a donné naissance à certains poèmes. Hein, je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. Est-ce que le voyage à cheval lui donne l'occasion également d'écrire des mots ?
Non, parce que il a quitté l'écriture poétique à peu près vers 1874-1875. Il n'est plus question pour lui de vouloir écrire quoi que ce soit. Après, évidemment, ça ouvre l'imaginaire, parce que déjà imaginer Rimbaud en Abyssinie en train de marcher, en train de parcourir donc l'Abyssinie à cheval, ça ouvre beaucoup de perspectives, et on pourrait l'imaginer peut-être dans cette forme de rêverie où il pourrait composer dans sa tête, dans son esprit, des poèmes peut-être moins corsetés que ce qu'il faisait auparavant. Après, évidemment, c'est pas le cas du tout, puisqu'il n'a rien écrit de poétique, hein, pendant cette période-là. Un élément qui est intéressant dans la notice sur l'Ogadine, où c'est tout de même un rapport ethnographique, hein, d'Arthur, donc relativement objectif, etc. Il y a un moment qui m'a vraiment étonné, c'est qu'à un moment il décrit une peuplade africaine qui possède des poètes improvisateurs. Et à côté de ces deux mots-là, il y a un point d'exclamation. Et ça ouvre aussi pas mal de commentaires, puisqu'on pourrait supposer que Rimbaud, voyant ces poètes improvisateurs, il a peut-être pu vouloir les imiter, peut-être. En tout cas, il a peut-être trouvé des cousins de poésie ou des frères de poésie.
La poussière de la route, je vous cite Alexandre Blénaud, et les espaces toujours, la fuite en avant et le vertige de l'exotisme. Il a besoin pendant longtemps d'en rêver, d'en écrire quelques signes, et c'est parfois vers l'Occident qu'il a regardé, c'est ce que vous écrivez, et cet Occident, c'est aussi le Far West.
Oui, alors il n'a jamais été aux États-Unis, bien sûr. Hein. Néanmoins, il a tenté cela. Donc dans cette période où il se cherche, où il essaie de trouver un endroit pour se poser, donc il va parcourir un certain nombre de pays d'Europe, comme je l'ai dit, à un moment, il va postuler pour rentrer dans la marine américaine. Il écrit au consul des États-Unis à ce propos, et il signe d'ailleurs cette demande par non pas Arthur Rimbaud, mais par John Arthur Rimbaud. Alors on pourrait l'imaginer effectivement, comme Alain Borer l'a fait d'ailleurs, l'imaginer en train de parcourir le Far West. Et Alain Borer, il a raison de dire que finalement, ça n'aurait pas changé grand-chose à sa vie. Qu'il soit en Abyssinie, qu'il soit aux États-Unis, ou en Amérique plus largement, Rimbaud serait resté Rimbaud, c'est-à-dire toujours mécontent de lui-même, toujours impatient, toujours à la recherche de quelque chose et peut-être de l'enrichissement. Et on peut très très bien l'imaginer en train de chercher de l'or donc dans l'Ouest américain.
Alors, on l'a dit, donc avant d'être un cavalier, Arthur Rimbaud est un marcheur qui peut parcourir 40 km par jour. Là aussi, l'image que l'on s'est faite peut être surprenante. Hein. On l'imagine, ce jeune homme plutôt frêle. Hein. On voit les photos de Rimbaud qui ont fait le tour du monde. Or, c'est pas du tout un petit jeune homme très frêle. Hein. Son ami Delahaye, en tous les cas, en donne un tout autre témoignage.
Oui, il était solide comme un Ardennais, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, oui, il a des origines paysannes du côté de sa mère, hein, qui détenait une ferme dans les Ardennes, donc à Roche. Et donc il a ce physique effectivement à la fois juvénile, mais il peut apparaître aussi comme une sorte de force de la nature. Delahaye le décrit à un moment comme grandissant très très vite. Je ne sais plus à quelle date c'est exactement, mais durant sa jeunesse, il va grandir de 20 cm en quelques mois, par exemple. Hein, c'est une indication. Et voilà, il a cette force de la nature. Quand on parcourt 40 km par jour, alors peut-être pas tous les jours, mais ouais, en tout cas assez régulièrement, voilà, on a quand même une condition physique qui est assez... assez bonne.
Alors Arthur a-t-il embarqué avec lui au bout du monde cette arrogance souvent observée chez lui par ses contemporains? C'est ce qu'on va voir avec Alexandre.